Bien, ben, bienvenue. Bonjour, mesdames, messieurs. On est toujours heureux de revoir des anciens visages, d'accueillir des nouveaux. C'est une longue tradition à Princeps que de tenir ce colloque dit de Bobigny jusqu'à nouvel ordre pour mettre ensemble nos questionnements d'abord et quelques-unes de nos espérances, peut-être pas de certitude. Alors d'abord, je voudrais excuser Jean-Claude Salomon, notre ami et collègue qui malheureusement est hospitalisé. Vous voyez que notre groupe subit les épreuves de la vie et du temps. Et puis on va démarrer par une très courte présentation pour vous donner un peu l'esprit qui figure dans le programme que vous avez. Alors voilà, d'abord on est hébergé dans les locaux de la revue indépendante Prescrire, que beaucoup connaissent et apprécient. Nous en les remercions. Évidemment, comme nous sommes gourmands, nous espérons que plus que l'hébergement, on puisse faire des jonctions plus productives, plus certainement nécessaires. On est paxé avec la SFTG, la Société Française de Thérapeutique en Médecine Générale, et une association de Toulouse qui s'appelle Civic Santé. On s'est déplacé de Bobigny à Paris, je ne sais pas si c'est un bon signe, de la banlieue où on avait trouvé nos lieux, vers Paris, suite à un divorce. Un peu malencontreux, un peu rude. Mettre les mots là où il faut, c'est une censure, sans ambiguïté, qui nous a accablés plus qu'elle n'accable ses auteurs. Dans la mesure où, dans le cas de l'université française, mettre un veto sur une ou plusieurs communications, le seul vu des intitulés, c'est quand même un fait grave. On peut être naïf et espérer que ça soit isolé. Malheureusement, on craint que ça soit une lame de fond. Nous avons été censurés. Et la faculté de médecine de Bobigny, qui nous accueillit avec beaucoup de complicité, qui a une longue tradition du point de vue des ouvertures et de son implication dans la vie sociale, eh bien, a été amené à ça. La doyenne, probablement le président de la conférence des doyens d'université ou de recteur d'université, ont jugé utile de ne plus nous accueillir. Donc on s'est déplacé. Comme Bobigny n'est pas une propriété encore privatisée,
ça va venir.
Oh non, l'ADP déjà résiste, alors on va essayer. Nous allons conserver le logo Bobigny, colonne de Bobigny, même s'il se tiendra peut-être un jour dans le sud, peut-être plus au nord, peut-être quelque part. Voilà. Alors, c'est une tradition chez nous de refaire un peu un feedback rapide, évidemment sans prétention. Le chemin parcouru depuis notre 7e colloque. Vous savez que nous tenons des colloques depuis 2012.
Oui.
Régulièrement, au printemps, et que le dernier était programmé à Bobigny, effectivement, en mai 2019, on a dû le reporter ici. De notre point de vue, ce qu'on a appelé le dévoilement, c'est-à-dire une mise à nu des effets délétères du système et probablement de ses logiques. Eh bien, il se poursuit, il s'élargit sur plusieurs fronts. Vous en êtes probablement des témoins très attentifs et probablement aussi des acteurs. Sur la question de la sur- et sous-médicalisation liée aux inégalités sociales et territoriales, on peut dire que de plus en plus de témoignages, de travaux, d'études montrent que les effets délétères, d'abord la pratique et la spirale de la surmédicalisation, accompagnée de la sous-médicalisation, et de ces effets délétères sur les inégalités sociales et la paupérisation. Du point de vue des médicaments essentiels et de la liste des médicaments essentiels, qui est un de nos centres d'intérêt majeurs, eh bien, la résistance a été plus forte. La résistance est plus forte institutionnellement, à l'intérieur des institutions, malgré tous les efforts qui ont été faits d'entraîner une partie des universitaires et des producteurs d'idées et influenceurs, comme on dit, eh bien, ça n'a pas marché. Et on peut dire qu'il y a une résistance plus large, pas seulement dans les institutions, probablement dans les pratiques professionnelles et peut-être même dans la demande sociale et dans la tête des gens. C'est une question très sérieuse qui se pose. le fait récent des pénuries de médicaments, plus de 1200 produits, dans un pays producteur comme la France, qu'il était, d'accord, est quand même un fait à noter. C'est-à-dire que finalement, nos efforts intra-institutionnels se heurtent très vite à leurs limites. Et très vite, on voit aussi que l'espoir, il vient du mouvement social, des évolutions, des rapports de force plus structurels, et que la question des pénuries, à mon avis, se passera à quelque chose de plus. Et les injonctions institutionnelles de dire on va pénaliser les firmes si elles ne répondent pas, si elles ne se soumettent pas, on sait qu'elles sont vaines et presque ridicules. Voilà. Ils veulent le marché, ils veulent en même temps le contrôler. Ben voilà, la délocalisation a fait son travail et la France va devenir, comme les pays en voie de développement, qu'elle maintenait sous ses influences, via Sanofi en particulier, Total, etc., eh ben elle connaît la même problématique, des pénuries. Évidemment, dans ce sac de pénuries, il y a tout. Il y a le superflu, mais il y a aussi le nécessaire, y compris en matière de vaccination de base recommandée. Et puis, il y a eu le procès du médiateur. Vous en avez été témoin. Servier n'est pas là, mais ce n'est pas la question d'une personne. C'est la question que c'est un des procès qui a été le plus émouvant et qui est toujours d'ailleurs, puisque les délibérations ne sont pas terminées, et qui, à mon avis, malgré la manière dont les médias essaient de limiter son audience, est un procès qui va marquer aussi les pratiques de conflits d'intérêts, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les pratiques des ce qu'on appelle les industries du médicament, si tant est qu'elles restent des industries. Et puis il y a eu d'autres éclairages, les intoxications multiples. Vous vous rappelez qu'on avait traité de la question des opiacés. Vous savez quel est son impact sur la mortalité à un niveau non négligeable aux États-Unis. Ça va jusqu'au paracétamol, dont on abuse au quotidien, y compris en automédication. Vous voyez que finalement, pour ne citer que quelques-uns, mais la liste est très longue, probablement que sur la question des médicaments et du discernement qui est nécessaire dans l'intérêt des gens, de leur santé, probablement aussi de la collectivité et de ses financements solidaires, le salut est du côté des évolutions majeures dans la société. L'aliénation dans les têtes et dans les pratiques se révélera plus résistante, mais ne cédera que s'il y a des évolutions de fond, nous semble-t-il. Sur les cancers, vous en connaissez un chapitre, et en matière de dépistage en particulier, vous savez que les programmes de dépistage des cancers, notamment du sein, sont en démantèlement, silencieux, institutionnel. Comme toujours, on restructure de la départementalisation, on est passé à la régionalisation, et où on freine et on occupe tous les professionnels en déroute à gérer leur carrière, à ramasser, à être en défensive. On ne parle plus de dépistage. Même Octobre Rose s'est adouci, a disparu dans l'automne un peu pluvieux. D'accord ? Les feuilles mortes. Et la victime dans cette affaire, c'est le colorectal. La victime dans cette affaire, c'est toutes les données cumulées. C'est toutes les souffrances des femmes. C'est toutes les pratiques abusives. C'est tout ce patrimoine dans ce qu'il a de meilleur et de discutable qui va disparaître comme ça. Personne n'engrange les données qui ont été accumulées. Donc personne ne répondra à la question. La stratégie qui a été montée ou pas cadencée comme une guerre contre le cancer, c'était le terme, comme une guerre, bien cette stratégie ne sera pas évaluée. Pertes et profits. Perte pour les unes, perte pour la société, perte pour profit pour d'autres. Ensuite, non, pardon, tu veux bien revenir à la meilleure compréhension des interrelations de l'environnement avec les cancers. Bien sûr qu'on l'avait suspecté depuis longtemps, bien sûr qu'il y a eu des travaux de toute nature sur l'effet des pesticides, des perturbateurs endocriniens, sur tous les effets délétères et de leur effet épigénétique. Et bien maintenant, c'est de plus en plus reconnu, de plus en plus d'études. qui font état de cette interrelation de manière beaucoup plus fine et de ses effets sur, alors vous savez, les tendances sur la mortalité, les survies, la qualité, l'incidence, la prévalence, elles se poursuivent, dépistage ou pas, en expansion ou pas, elles se poursuivent, chacune à sa manière. À grands traits, nos hypothèses, c'est que les questions de sur et de sous, j'allais dire surtout, les questions sur et sous-médicalisation s'inscrivent dans un contexte plus large de sur- et sous-consommation. Et que finalement, ce qui est à l'ordre du jour, socialement parlant, c'est que ce qui est le plus en cause, c'est les modes de consommation et de production. Peut-être que les territoires des soins, de la santé, sont des territoires plus sensibles, plus aliénants, plus aliénés, et que ça viendra après. Ce qui est sûr, c'est que les gens se posent des questions sur la manière dont on produit ce dont on est nourri, sur la manière dont on s'alimente, etc., etc. Peut-être que là aussi, parce qu'au fond, sur- et sous-médicalisation, c'est un peu une logique inhérente à la sur- et à la sous-consommation, au consumérisme, au mode de production intensif, en lien avec les crises du système, dont la dimension écologique. Peut-être que là aussi, ce type d'interrelation va nous permettre de voir des perspectives plus larges. Évidemment, sur les soins médicaux, les résistances sont plus fortes, comme je le disais. Notre stratégie, on en avait une, intuitive au début, plus ou moins formalisée au fur et à mesure, hésitante, c'est que finalement, les différentes composantes du mouvement des indépendants, les indépendants du point de vue des liens, du point de vue de la pensée, du point de vue de la soumission, j'ai failli mettre insoumis, puis je craignais d'heurter certains, émergent dans différents pays, en France, plus au sein du mouvement social. C'est ça qui est intéressant. Écoutez, les jeunes qui se battent, qui se révoltent, qui veulent prendre en charge leur avenir, les bagarres de toutes sortes, y compris des agriculteurs qui disent qu'il n'y a pas d'alternative aux pesticides, mais qui expriment autre chose, au fond. Et ce qui se passe actuellement ici et là, et dans de nombreux pays, nous l'enseignent de tous les jours. Encore chacun de son côté, c'est là notre point de faiblesse, comme pour tout le reste. Vous voyez, prescrire se bat de son côté, nous plus modestement de l'autre, la SFTG fait de son mieux, et tant de mouvements qui essaient de faire avancer des idées proches, des idées qui ne se confondent pas, des valeurs qui sont communes, mais peut-être que le mouvement est là. Notre groupe, le groupe Princeps, vieillit en moyenne d'âge réel et peut-être même intellectuel. Il y a quand même une révolution démographique qui se passe, il y a beaucoup de choses qui bougent. On vous le dit, hein, tout de go, notre groupe vieillit et s'épuise. En d'autres termes, s'il n'y a pas de renouvellement, pourquoi faut-il qu'il y ait du renouvellement? Peut-être qu'il y aura une autre forme, peut-être d'autres combats, peut-être d'autres têtes, enfin, j'en sais rien. Bon, nous, on a l'habitude de dire la relève. Peut-être que ça ne veut rien dire, les ruptures et les déplacements et d'autres formations. Le fait est que notre groupe vieillit et s'épuise. Soyez attentifs à cela, si vous tenez à cet espace, pour qu'il soit relié. On avait eu la prétention et l'espérance que le réseau que vous constituez autour de nous, le réseau dans lequel nous on s'inscrit, puisse porter, et je crois que c'est ce qui se passe, hein, finalement, que le groupe Princeps s'évanouisse et devienne une spécialité, et que les idées qu'il a tenté de rejoindre soient portées par d'autres, et bien voilà notre consolation, et plus que ça. La dernière plaque. Ah oui, aujourd'hui, vous savez que c'est le Black Friday. Je l'avais ignoré jusqu'à présent. Non, pas Frida. Je l'avais ignoré jusqu'à présent comme une sorte de résistance inconsciente. Vous avez réalisé la pression de la pression qui est faite sur le lycée. C'est-à-dire cette saillie consumériste téléguidé sous injonction, c'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on a beau rêver sur la conscientisation, sur les modes de production et du consumérisme, il y a quand même y a un pot de fer là-dedans. Il y a un pot de fer. Enfin, pour rigoler, je disais Pink Friday, mais ce matin, je voyais dans le métro Green Friday. Pourquoi pas? Vous voyez quand même que jamais, jamais, on peut oublier les dimensions dialectiques de tout ce qui se passe. Nous pourrons dire. Alors là, il y a pour nous tous, hein, moi compris, puisqu'il faut que j'arrête dans 30 secondes, il y a un minutage. Malheureusement, nous aussi, on est du système. C'est-à-dire, on est tout le temps sous pression, on veut trop dire, on veut aller vite, on veut aller vite. Et on a trouvé une technique, c'est-à-dire le micro sera coupé. Mais comme il y a des gens qui ont des voix qui portent, je vous propose que, quand vous sentez que nous dépassons le temps, vous applaudissez jusqu'à ce que la personne comprenne qu'il faut arrêter. Ça ne choque pas les mains. Ah, pardon, il y avait les... Ça m'a échappé, non. C'est une plaque que j'ai zappée, vous voyez que le groupe vieillit. Il y a 4 conférences. D'accord, 4 conférences, dont celle de Michel, sur surspécialisation des études et des pratiques, a-t-elle nourrit-elle l'extension du domaine du pathologie. Vous vous rappelez que l'idée directrice qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'extension... L'extension des. Comment il a dit, Welbeck ?
Du domaine de la vie.
Nous, on a essayé de nous inspirer, c'est l'extension du domaine du pathologique. L'envahissement du normal par le pathologique, évidemment, pour qu'il y ait un peu de dedans. D'accord ? Donc, on a décliné en 4 conférences, c'est des invités. Il y a Michel qui va introduire la problématique centrale de la reproduction, l'université, la formation, la surspécialisation, voilà ce qu'elle donne sur les pratiques, et les pratiques, voilà ce qu'elle donne sur les conduites, sur les mentalités, sur la demande sociale. Ensuite, il y a une conférence qui a été programmée par Jean-Claude, qui l'a réalisée, on va voir si on peut la faire passer, sur, il a appelé ça la révolution médicale, en guillemets. Finalement, on nous a toujours, lui, c'est son dada, les innovations sont-elles des innovations? Pour qui, comment et pourquoi. D'accord ? Ensuite, il y a une présentation d'un invité qui nous tient à cœur, c'est le représentant des associations de malades, sur un peu leur avis. Au fond, sont-ils des porteurs de renouvellement, de la mise en cause, ou des victimes, ou des reproducteurs du système, quoi. Et puis la 4e conférence, c'est celle de la Ligue des droits de l'homme. On a interrogé les rapport entre les droits de l'homme et la question de la surmédicalisation. Il y a donc 4 conférences, 3 ateliers sur place. On restera dans cette formation, si vous voulez bien. 3 ateliers, chacun introduit rapidement pendant 7 minutes, puis ensuite il y a 3 communications. Et s'il reste un peu de temps, vous pourrez parler. Si vous voulez plus de temps, il faudra...
Il faudra
4 conférences, 3 ateliers, 1 séance de communication à vivre pour que les uns et les autres s'expriment, là aussi qu'il faudra contenir dans le temps, et puis une brève conclusion demain matin en fin de matin. Voilà un peu l'esprit du programme que vous avez sous les yeux. Merci pour votre implication.